je pense que je vais demander... Bbonjour, Daniel.
Oui, rebonjour.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
On vient d'entendre la pièce One par le groupe Three Dog Night. Oui. Et la voix qu'on entendait, c'était celle de Chuck Negron qui est décédé.
C'était vraiment drôle parce qu'en ouverture d'émission, je t'ai dit, ah, je connais pas vraiment ce chanteur-là. Puis pour faire changement, je n'ai pas eu le temps hier d'écouter les pièces musicales que tu m'avais envoyées. Puis je me dis, on va découvrir. Et là, je me dis, oui, c'est une belle découverte. Je me souviens d'avoir entendu ça.
Oui, et ça, cette chanson-là, elle avait été écrite par Harry Nilsson, qui en avait déjà fait une version avant. Le groupe Three Dog Night l'a réinterprété. Et c'est leur version qui est la plus connue. Ça arrive.
Ah ouais.
C'est des choses qui arrivent. Par contre, Harry Nilsson a sûrement récupéré toutes les redevances. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Ouais.
Donc, Chuck Negron, je sais que probablement ce nom-là ne dit pas grand-chose à bien du monde. Moi-même, quand j'ai appris qu'il était décédé, je savais pas c'était qui. Donc, j'ai fouillé.
Une petite recherche sur Google, mais je me dis, je vais laisser à Daniel.
J'ai fouillé un peu. Ouais. Là, quand j'ai vu le groupe Three Dog Night, je dis, OK, je connais ça. Je connais quelques-unes de leurs chansons. Mais je connaissais absolument rien de sa vie. Je connaissais pas les noms de aucun des membres de ce groupe-là. Ça, c'est une chose quand même. À l'époque, dans les années 60-70, surtout, il y a certains groupes, on connaissait les noms des musiciens.
Ouais.
On savait les Beatles, c'est John George, Paul and Ringo, les Rolling Stones, on savait que c'était qui, les Kings. Mais je sais pas pourquoi, Three Dog Night, ces gars-là, aucun nom qui sortait. C'était vraiment juste le nom du groupe. Donc, Chuck Negron était né le 8 juin 1942 à New York, Manhattan, à New York. Et il est décédé le 2 février 2026. J'en allais dire 1900, c'est pas vrai, 2026, à l'âge de 83 ans. Et ça, ça m'a surpris un peu parce que quand j'ai lu son histoire, Keith Richards n'a rien à envier à ce gars-là.
Ah bon?
Lui aussi, il a eu une vie assez... C'est assez surprenant qu'il ait vécu aussi longtemps que ça. Donc, il était connu surtout comme étant le membre, un des membres fondateurs du groupe Three Dog Night. Et il a publié à un moment donné son autobiographie. J'en parlerai peut-être un petit peu tantôt. Et là-dedans, il raconte que quand il était ado, c'était un athlète. Il jouait au basketball et puis il aimait beaucoup ça. Il avait été recruté par un collège. Lui, il venait de New York, mais il avait été recruté pour jouer au basketball à un collège en Californie. Et par la suite, il a été recruté par un autre collège, je pense que c'était le California State University. Donc, il commençait déjà à se faire un nom en sport là-bas, mais il aimait beaucoup chanter aussi. Donc, il participait avec certains groupes. Et même qu'en 1963, il y a eu un contrat avec la compagnie Columbia Records. Puis, il chantait avec un groupe qui s'appelait The Sorensen Brothers. C'était pas un nom inventé, là, c'était vraiment les frères Sorensen qui faisaient ce groupe-là. Lui, il était le seul, il n'était pas de la famille. Par contre, ça, je l'ai trouvé un peu par hasard, parce qu'à ce moment-là, il travaillait sous le nom de Chuck Rundell. Je ne sais pas pourquoi il avait pris un nom d'emprunt comme ça. Je pense que c'était à la mode à l'époque. Peut-être encore un peu aujourd'hui, mais à l'époque, on changeait souvent de nom. Et quelques années plus tard, il a rencontré un certain Danny Hutton qui l'a invité à rejoindre un autre chanteur pour former un trio. Et ça, c'était assez particulier à l'époque. Là, on est en 1967. C'est vraiment l'âge d'or des groupes de rock. Les Beatles, les Stones, comme j'ai nommé tantôt, mais il y en avait plein d'autres. C'était vraiment la mode des groupes. Et eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était un groupe vocal. Trois voix seulement. Engager quand même des musiciens, là. Mais le groupe, c'était pas des musiciens. Pour eux autres, c'était trois voix. Donc, ils ont accepté de participer à cette aventure-là. Et je sais pas de quelle façon c'est arrivé, parce que là, j'imagine qu'ils devaient avoir des bons contacts. Ils ont commencé à travailler en studio avec Brian Wilson. C'est à prononcer le matin, des fois. Brian Wilson, des Beach Boys.
Oui.
Nul autre que Brian Wilson. Donc, parce qu'on sait qu'à l'époque, Brian Wilson, il faisait encore partie des Beach Boys, mais il avait arrêté de faire de la tournée avec eux. Il travaillait surtout en studio, composé, arrangé, tout ça. Il travaillait avec des musiciens. Donc, il avait décidé de prendre ces trois chanteurs-là et essayer de faire quelque chose de bien avec ça. Ils ont travaillé un bout de temps ensemble. Mais je pense que c'est peut-être un peu suite aux pressions des autres membres du groupe Beach Boys qui ont dit « Non, là, tu devrais te concentrer sur nos projets. » Et il laissait faire les autres un peu, là. Donc, il les a abandonnés. Il les a laissés de côté. Les gars, ça ne les a pas découragés. Ils ont décidé quand même de se partir un groupe. Ils ont embauché des musiciens. Ils ont travaillé un bout de temps sous le nom de Redwood. Je pense que Redwood, c'est le nom d'une ville en Californie qui n'est pas tellement loin.
Ouais.
Donc, ils ont travaillé un bout de temps sur le nom de Redwood. Et ensuite, je ne sais pas comment c'est arrivé, ils ont fini par avoir un contrat de disque, puis là, ils voulaient changer de nom, Et le nom Three Dog Night, je ne sais pas si je devrais vous le dévoiler tout de suite. Moi, je trouve ça bien drôle, la façon que c'est arrivé.
Mais là, tu viens de nous...
Je pense que je vais le faire. Oui. C'est que un des chanteurs, je pense, c'est Corey Wells, sa copine qui était une actrice, qui avait joué un rôle dans le film Cheech and Chong, Up in Smoke. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
C'est
un film très déjanté sur des gars qui passent leur journée, ça a dope. Elle était reconnue comme la Ajax Lady.
OK.
Parce qu'au lieu de sniffer de la coke, elle avait sniffé une ligne d'Ajax. Vous vous souvenez, c'est quoi du Ajax?
Oui.
C'est comme du comète, là. C'est vraiment le genre de film assez sauté.
Ça devait être dur sur les narines. Hein?
Ça devait être dur sur les narines, peut-être sur le cerveau aussi.
Probablement.
Un lavage de cerveau, ça a commencé de même.
C'est que le dire.
Donc, elle, apparemment, il y a eu deux versions différentes de ça, mais apparemment, elle aurait lu un article dans une revue genre National Geographic qui parlait des aborigènes australiens qui vivaient un peu comme des nomades. Et puis quand il faisait froid la nuit, ils dormaient avec des chiens sauvages, des dingos. Donc, ils se prenaient un chien avec eux pour se réchauffer. Puis quand il faisait un peu plus froid, ben il y avait deux chiens. Puis quand tu disais une « three dog night », ça, c'était frette. C'était vraiment une nuit glaciale. Il y avait besoin de trois chiens pour dormir. Eux autres aussi ont trouvé ça drôle, c'est comme histoire. Ils ont dit « ça fait un bon nom, ça, three dog night ».
Okay.
Donc, ils se sont appelés comme ça. Puis je pense
pour réchauffer les gens qui aiment la musique.
Pour eux autres, c'était l'expression « three dog night », c'est une nuit glaciale ». Donc, le nom, moi,
c'est ça fait... Gelée.
Ouais, fait que c'est ce groupe-là qui existait depuis 1967-68. Je viens juste d'apprendre d'où le nom. Donc, le 16 octobre 1968, ils ont enregistré un premier album éponyme, donc qui s'appelait seulement Three Dog Night, et ils ont lancé 3 45 tours tirés de cet album-là. Les deux premiers ont assez bien marché, mais ils n'ont pas laissé de traces beaucoup. Et quand ils ont lancé One, celle qu'on a entendue, là, ça a fait vraiment un gros hit. Ça jouait partout. Et curieusement, c'était la seule qui était chantée par Chuck Negron.
OK.
Les deux autres étaient chantées par Corey Wells. C'était toujours les trois voix, quand même. Mais il y en a quand même un qui a la voix principale. Et One, bon, c'était Chuck Negron qui avait la voix principale dans cette chanson-là. Il y a une voix assez distinctive, d'ailleurs. Oui. On le reconnaît facilement. Et de 1969 à 1972, ils ont placé 13 chansons dans le top 10. Donc, même si ça n'était pas toujours des numéros 1, ils jouaient à la radio continuellement. On pouvait pas, on pouvait pas passer à côté. Et ils ont eu 7 albums certifiés or et 1 platine. Ils auraient vendu peut-être... Environ, les chiffres, c'est toujours difficile, là, parce que ça dépend de qui les fournit, là, mais ils auraient vendu environ 60 millions d'albums.
Quand même!
C'est une période quand même assez courte, parce que le groupe a toujours continué à faire de la tournée, mais après les années 70, là, ils ont arrêté un peu d'enregistrer. Ou ils ont enregistré des choses, il n'y avait pas vraiment beaucoup de promotion, ça ne se vendait pas. Donc, tout ça, ça a été produit dans une période quand même assez courte. Et aussi, ils ont eu plusieurs disques d'or pour des 45 tours. Là, je parlais des albums tantôt, mais à l'époque, c'était à l'époque des 45 tours. Il y en a eu plusieurs, dont plusieurs qui étaient chantés par Chuck Negron. Je vous ai préparé deux extraits audio, mais le premier, c'est surtout des chansons qui étaient interprétées par Chuck Negron, étant donné que c'est lui le sujet. Tantôt, j'en ferai écouter un autre qui est des chansons du groupe en général. How can people be so ugly? So cruel, easy to be hard, easy to be cold. Just an old-fashioned love song playing on the radio, and wrapped around the music is the sound of someone promising they'll never go. Just an old-fashioned love song, one I'm sure they wrote for you and me. Just an old-fashioned love song, coming down in three-part harmony. We
dream our dreams upon and listen to a song. To the music. Celebrate, celebrate.
Les multiples variations de la voix
oui,
de Billy Graham.
Oui,
hein?
On voit qu'il y avait vraiment une grande nuance entre le premier extrait qu'on a entendu et le dernier, la voix très douce au début et pas mal.
Mais
plus
toute une
ouvert.
Maîtrise hein, de, son, une maîtrise. De sa voix, oui.
C'était pas seulement un talent, c'était quelqu'un qui travaillait, prenait ça au sérieux. Les extraits qu'on a entendus, c'était Easy to be Hard, Old Fashioned Love Song, Celebrate et Joy to the World. C'est quand même des chansons qui ont marché beaucoup à l'époque. Il y a eu une vie quand même assez malheureuse dans l'ensemble. Et ça, c'est un sujet qui revient. C'est assez fréquent. Ouais. Hein? C'est un petit peu désolant, mais c'est assez fréquent. D'ailleurs, dans son autobiographie, il dramatise peut-être un peu parce que des amis et collègues ont dit que c'était pas si pire que ça. Quand il était jeune, ses parents se sont séparés. Ça, c'est pas très, très grave. Mais lui, il disait qu'il avait été placé dans un pensionnat. En réalité, bon, ouais, il était pensionnaire. Il n'était pas dans un orphelinat. Là, ouais. Il était pensionnaire parce que sa mère était toute seule pour s'occuper de lui. Il fallait qu'elle gagne sa vie. Donc, il n'était pas abandonné par sa mère. Pendant sa période vraiment de grand succès avec les Three Dog Night, il faisait vraiment une vie de jet-set, comme c'était à la mode aussi à l'époque. Ouais. Là, donc, il flyait. C'est une façon de parler, là, mais il n'était pas les deux pieds sur terre. Donc, il y a eu beaucoup de dérapages. Il est devenu accro à l'héroïne.
Ouais, il était
ça
high,
lui a causé plein de problèmes. Mm-hmm. À un moment donné, j'ai vu certaines sources qui disaient que ces trois gars-là, pendant qu'ils étaient en tournée une certaine période, il fallait vraiment qu'il y ait trois loges séparées, éloignées, ils ne pouvaient plus se rencontrer. Ils voyaient sa scène, that's it.
Ah oui, ils ne s'entendaient plus.
Ils n'étaient plus capables de se blairer. Puis d'ailleurs, lui, il s'est fait mettre dehors du groupe, carrément, à un moment donné.
Ouais.
Parce que même si c'était quand même lui l'attraction, c'était deux très bonnes voix, les autres aussi. Mais c'était lui qui était devenu un peu l'attraction. C'était la voix principale du groupe. Mais malgré tout ça, ils l'ont remplacé parce que c'était plus vivable.
Mais la consommation, hein, parfois, ça devient problématique pour tout le monde.
Il avait dépassé les excès. Ouais. Il avait dépassé tout. Il était rendu, il vivait comme un sans-abri. Il était complètement démuni. Il n'avait plus un sou. Il dormait dans des boîtes de carton. Il aurait probablement aimé ça, avoir des chiens pour le réchauffer la nuit. Ouais. Donc, ça allait vraiment pas bien. Ouais. Par contre, il s'est repris à un moment donné aussi. Mais après plusieurs tentatives, je sais pas, c'est peut-être exagéré, mais ce que j'ai lu quelque part, il avait abandonné une trentaine de sessions de désintoxication. Trentaine, ça veut dire que ça allait pas bien. Là. Il commençait, il se sauvait, ça allait pas bien. Il recommençait, ça marchait pas. Mais il a fini par devenir sobre. Je pense que à partir des années 2010-2011, il a commencé à avoir une vie plus normale. Il a été marié 4 fois. Mais là, son dernier mariage avec sa dernière épouse, ça allait bien. Il y a eu 2 filles de ce mariage-là. Ses filles chantaient avec lui. Ils ont enregistré un album ensemble. Donc, il y a eu quand même une réhabilitation finale qui a bien fonctionné pendant plusieurs années. C'est quand même rendu à 83 ans.
Quand même.
Après la vie qu'il avait eue, je pense que c'est quelque chose à... j'aimerais ça quand même qu'on regarde, parce que là, je disais, bon, le groupe, ils l'ont mis dehors, je pense, en 1975. Il faut dire qu'il s'était fait arrêter par la police environ 1 heure avant un spectacle qui était le premier d'une tournée. Ça, je pense que c'était un petit peu la goutte, une grosse goutte,
disons
une chaudière d'eau.
C'est problématique, ça.
Ah, là ça, ouais. Les autres, ils n'ont pas toléré ça.
Ouais.
Mais le groupe a continué quand même un petit bout de temps après, mais ils se sont séparés environ 1 an plus tard, là, en 1976. Ils ont fait leur dernier concert au Greek Theater à Los Angeles, le 26 juillet 1976. J'aimerais ça qu'on écoute un extrait de d'autres pièces du groupe. Il chante quand même sur ces chansons-là, mais c'est pas lui qui a la voix principale.
Allons-y.
Before the breathing air is gone, before the sun
at the door. I'm looking at my girlfriend, she passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, I don't wanna see no more. Mama told me not to come.
On vient d'entendre des extraits de Three Dog Night.
Encore une fois, ouais. Three Dog Night, on a entendu des extraits de Out in the Country, mm-hmm. One Man Band, Mama Told Me, Chest Fever, Shambhala et Black and White. Toutes des chansons qui ont quand même joué beaucoup dans les années
et
70.
Et pour certaines personnes de ma génération ou de nos générations, on a déjà entendu.
On a des souvenirs de ça. On a des souvenirs. Les plus jeunes disent qu'ils n'ont jamais entendu.
Mais... Ben oui, de l'autre côté.
Moi, j'ai jamais entendu, mais.
De l'autre côté de la fenêtre, qu'est-ce que tu veux? C'est jeune, cette affaire-là. Il
faut dire qu'il y en a quand même là-dessus que j'ai entendu un peu par hasard, parce qu'il y a certaines époques, j'écoutais plus de la musique progressive. Mm. Fait que ça, j'entendais ça un peu par hasard, puis je disais, c'est pas pire, mais c'est pas mon bag. Donc, le groupe s'est séparé en 1976. Ils se sont réunis en 1981. Ils ont refait une tentative, des tournées un peu, mais pas d'album. Et en 85, là, ils l'ont éjecté carrément du groupe. Là, ça a été vraiment fini. Là. Mm-hmm. Ils voulaient plus. Ils étaient plus capables. Il n'y a plus personne qui était capable d'endurer ces écarts de conduite. Donc, le groupe a continué avec les deux autres chanteurs, Corey Wells et Danny Hutton, et le guitariste a continué à faire les harmonies vocales qui étaient faites par Chuck Negron. En mai 2002, ils ont continué quand même pendant longtemps, là, dans les années 2000, ils étaient encore actifs. Ils ont enregistré un album, Three Dog Night with the London Symphonic Orchestra. J'ai écouté des extraits. Et parce que ça aussi a eu une mode un peu, au moment encore aujourd'hui, on le voit, là, des groupes rock qui enregistrent avec un orchestre symphonique. Des fois, ça donne des choses très intéressantes, très différentes. Dans ce cas-là, c'était bon, mais il n'y avait pas assez de différence, d'après moi, entre les originaux. Il y avait juste ajouté des instruments à la corde avant, tout ça. Mais c'est quand même intéressant. Donc, aujourd'hui, Danny Hutton, c'est le seul survivant du groupe parce que Corey Wells est décédé en 2015 à l'âge de 74 ans. Il fait encore de la tournée sous le nom de Three Dog Night. J'ai vu des dates, si vous voulez, en février, il y a encore des dates de concert jusqu'à fin mars, je pense. Donc, il doit avoir dans les 80 lui aussi. Fait qu'un petit peu comme les McCartney, Rolling Stone et compagnie, il ne veut pas arrêter. Il aime ça, c'est payant, donc on continue.
Est-ce que je le sois dans un bac de fromage?
Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il trouve l'énergie.
Ouais.
Donc, j'ai parlé tantôt rapidement. Chuck Negron avait publié sa biographie en 1999. Le titre de sa biographie, c'était « Three Dog Nightmare ». Quel jeu de mots, non?
Oui.
Cauchemar, Three Dog Night pour lui. Je pense que ce livre-là, il y a eu certaines rééditions. Il va sûrement en avoir des rééditions, étant donné que là, il est décédé. Mais j'ai fait une petite recherche. C'était très rare à trouver. Et puis, très dispendieux. Je ne sais pas pourquoi. Fait que si jamais ça vous intéresse, il y a plein d'informations sur Wikipédia, anyway. Ouais. Pas besoin nécessairement de se taper la biographie au complet. Donc, voilà, je pense que j'ai mentionné un peu tantôt aussi, il avait fait un album avec ses deux filles il y a quelques années. L'album s'appelait Generations.
Ouais.
J'ai écouté quelques extraits. Il n'y avait pas rien de marquant là-dessus. C'était des bonnes productions intéressantes, mais il n'y a pas eu beaucoup de promotion non plus. Donc,
Ben, on va terminer là-dessus, mais on va écouter The Show Must Go On.
The Show Must Go On quand même.
Ben, merci beaucoup, Daniel. Mm.